Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Je vais prier avant. Seigneur, merci encore pour ton assemblée, pour ton Église. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous te remettons ces moments que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour entendre ta parole et nous laisser nous transformer, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es bon. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es toujours là. Je te remercie, Seigneur. Sois aussi avec Céline pour ce qu'elle a préparé. Dispose aussi le cœur des enfants à entendre ta parole. Et le nôtre, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on s'était arrêté la dernière fois à Acte 10, avec, vous vous rappelez, la conversion donc d'une famille non-juive, conversion de Corneille, à Césarée. Donc, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la nouvelle de cette conversion, comme quoi des païens, Corneille et sa famille, avaient entendu la parole de Dieu, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la nouvelle arrive aux Juifs convertis de Judée, donc Jérusalem. Mais la suite va montrer que tout ce qu'ils ont retenu de la visite chez Pierre de Corneille, eh bien c'est que lui, Pierre, un Juif, est entré chez des non-Juifs et a même mangé avec eux. Passons sous silence ce qui est le plus important, c'est que c'était la première famille non-juif à accepter le Seigneur Jésus. Dieu venait de sauver toute une famille. Et c'était vraiment quelque chose de très important, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que ça a commencé justement à ce moment-là, pour les païens. Et Luc, qui a écrit le livre des Actes, il raconte trois fois cet épisode chez Corneille, en acte 10, acte 11 et acte 15, comme quoi c'est vraiment un élément crucial. Et cette importance, eh bien, les croyants de Judée, les croyants d'origine juive, circoncis de Jérusalem, ne l'avaient pas saisi. Ils pensaient que les nouveaux convertis à Christ devaient aussi se faire circoncire et qu'il ne fallait pas se lier à des non-juifs, même pas entrer chez eux. D'où le reproche qu'ils vont faire à l'apôtre Pierre. Et c'est là où on s'est arrêté, donc c'est acte 11, et je vais lire donc du verset 1 au verset 30. Acte 11, verset 1 au verset 30. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais, lorsque en extase j'eus une vision. » Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois du ciel, la voix reprit « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon surnommé Pierre ». Qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Verset 16. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Alors, la vérité centrale que j'ai choisie pour tout ce passage, c'est que l'Église, elle est appelée à grandir. Elle est appelée à grandir en nombre et aussi en maturité à la ressemblance de Jésus-Christ. L'Église est appelée à grandir aussi bien en nombre qu'en maturité à la ressemblance de Jésus-Christ. Et donc, j'ai fait cela en trois points. Commencez à avoir l'habitude. Alors, mon premier point, ça sera que, il faut un préalable à la croissance. Il faut au préalable que les préjugés, les barrières tombent entre les croyants. Ça sera le préalable à la croissance, que les préjugés et les barrières tombent. Mon deuxième point, ça sera, on verra la croissance en nombre de l'Église par l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle. Et troisièmement, nous verrons la croissance en maturité cette fois. Comment ? Par une solidarité réciproque entre croyants. Donc premièrement, voyons le préalable à la croissance. Que les barrières, les préjugés entre les croyants tombent. Le comportement donc de l'apôtre Pierre c'était l'apôtre qui sortait du lot, à qui Jésus avait confié les clés du royaume en Matthieu 16, 19. Eh bien ce comportement, il a surpris les apôtres en Judée, à Jérusalem, et les disciples juifs. Pourquoi ? Parce qu'il a dérogé aux sacro-saintes traditions juives. Il a osé fraterniser avec des incirconcis. Que va faire Pierre pour se défendre ? Eh bien, pour se défendre devant le reproche, il va se limiter aux faits. Il va raconter les faits, simplement les faits, c'est-à-dire sa vision de la nappe qui descend du ciel vers lui, avec dessus un mélange d'animaux purs et impurs, on a vu ça la fois dernière, et une voix lui disant de tuer et de manger. À quoi Pierre a répondu « Non, Seigneur », son refus. Et la foi lui disant « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé », verset 9. Cela pour lui faire comprendre que aucun homme, de ne considérer aucun homme comme impur ou comme souillé. Puis il parle de l'apparition d'un ange à Corneille, qui est apparu à Corneille. Puis l'arrivée des messagers de Corneille chez Pierre, que Corneille a envoyé, et l'ordre donné par le Saint-Esprit, donné à Pierre, de les accompagner chez Corneille. Pierre, donc, s'est limité au fait. Alors, on peut comparer les deux récits entre celui qu'on a vu la semaine dernière dans Acte 10, mais dans ce récit, il y a un détail qui est absent du chapitre 10 et qu'il est important de soulever. C'est le verset 14. L'ange promit à Corneille que Pierre lui dirait des choses par lesquelles lui et toute sa famille seraient sauvés. Comme quoi, Corneille n'était donc pas sauvé. Alors que Corneille, c'était un type bien, c'était un homme bien, parce qu'il faisait l'aumône, il avait des bonnes œuvres, c'était un homme de prière, il avait une piété. Donc, je vous ramène au chapitre 10, verset 2. Mais il n'était toutefois pas sauvé par ses bonnes œuvres. L'évangile, donc, il est pour tous. Y compris pour les gens bien, l'évangile est pour tous. Alors, le Saint-Esprit descendit sur Corneille et sa maison, quand ça, lorsque Pierre parlait, lorsque Pierre même a commencé à parler, il fut interrompu. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et Pierre, donc, répète cet événement. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Pierre, il a été interrompu par le Saint-Esprit. Et c'est rassurant. Je ne sais pas comment vous vous considérez pour annoncer l'évangile. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la... Est-ce que vous avez une bonne élocution ou pas ? En tout cas, c'est rassurant parce que ça veut dire que l'envoi du Saint-Esprit, eh bien, ça ne dépend pas de notre facilité d'élocution. Ça ne dépend pas non plus de notre force de persuasion, mais ça dépend de Dieu qui prépare les cœurs. Ça dépend aussi de notre fidélité à annoncer fidèlement la parole. L'Esprit est descendu aussi sur toute sa maison, toute sa famille qui était présente au moment où Pierre a parlé, au moment donc où ils ont entendu la parole de Dieu. Et ça me rappelle aussi cette promesse qui est un peu plus loin en Actes 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ta famille, là, toute la famille a entendu l'évangile de la bouche de Pierre. Pierre, il venait de réaliser qu'une autre Pentecôte venait d'avoir lieu chez Corneille. Eh bien, c'était la Pentecôte des non-juifs. Après, celle des juifs qui s'est passée à Jérusalem en Actes 2. Et donc, Pierre se rappelle cette promesse du Seigneur au verset 16, qui cite Actes 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Promesse du Seigneur Jésus. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé aussi bien chez les Juifs que chez les non-Juifs. Alors, Dieu avait tout prévu, parce que bien sûr, il y aurait des croyants d'origine juive qui seraient très sceptiques à la conversion des païens. Mais Dieu avait tout prévu. Pourquoi ? Parce que lorsque Pierre est allé chez Corneille, il n'y est pas allé tout seul. Il y est allé avec aussi des juifs convertis, qui ont été témoins de la scène. Pierre raconte son histoire aux juifs de Judée en présence des six témoins qui l'avaient accompagné chez Corneille au verset 12. Et eux-mêmes, ils ont été étonnés de ce que le Saint-Esprit soit donné aux non-juifs, c'est-à-dire sans devoir passer par le judaïsme. Pourquoi ? Eh bien, parce que aussi bien des non-juifs que des juifs ont cru au Seigneur Jésus. Ils ont cru, verset 17. Alors, nier cela, ça aurait été s'opposer. S'opposer à qui ? S'opposer à Dieu, rien de moins. Ce que dit Pierre. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui avait organisé, c'est un rendez-vous divin, qui avait préparé Corneille, qui avait préparé Pierre. Dieu avait tout organisé, c'est un rendez-vous divin. En réponse à leur prière, ils étaient en train de prier tous les deux, hein, Corneille et Pierre. Pierre, donc, il a agi par obéissance à Dieu. Lui, il était le premier sceptique, il a dit « Non, Seigneur ». Mais il a agi par obéissance à Dieu, même si les autres apôtres et les disciples n'ont pas compris pourquoi il est entré chez Corneille et il a mangé avec lui. Mais toutefois, les Juifs de Judée devaient savoir que le salut serait porté aux nations, pas seulement en Judée. Dans l'Ancien Testament, déjà, c'était annoncé en Ésaïe 49, fin du verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations ». Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Encore en Ésaïe, chapitre 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'était déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance que des non-juifs viendraient au Seigneur. Et puis Pierre aussi, dans son premier discours à la Pentecôte, il avait dit, acte 2, 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, quelle que soit ton origine, quiconque. Alors, eh bien, il n'en faut pas plus. Les disciples d'origine juive qui ont entendu le récit raconté par Pierre, ils ont reconnu que Dieu était derrière tout cela. Ils se sont calmés, ils ont changé d'attitude et ils ont cru Pierre. Tous sont convaincus, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi l'œuvre de Dieu qui les a convaincus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on aurait pu appeler les actes des apôtres les actes du Saint-Esprit, parce qu'effectivement, certains théologiens ont dit qu'il aurait pu s'appeler comme ça. Parce que c'est vraiment Dieu qui était derrière tout cela. C'est encore le Saint-Esprit, regardez le verset 18, qui a accordé la repentance pour avoir la vie aux non-juifs. Quand quelqu'un se repent, c'est que Dieu a travaillé son cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette conscience d'avoir péché devant Dieu, ça vient de Dieu. Qu'on soit juif ou qu'on soit non-juif. Qu'on soit un pécheur notoire ou qu'on soit un gars bien comme Corneille. Et ça confirme les paroles de Jésus en Jean 16, verset 8. Et quand il, donc le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et du jugement. Voilà le travail du Saint-Esprit. Nous convaincre dans nos cœurs. La repentance, donc, c'est Dieu qui accorde la repentance. Mais ce n'est pas tout. La repentance, le regret d'avoir péché, ne suffit pas pour être sauvé. Sinon, on serait constamment triste. Il faut aussi la foi. Il faut aussi la foi en quoi? En qui? En Jésus, le Fils de Dieu, qui pardonne à quiconque croit qu'il s'est laissé crucifier pour porter la punition de nos péchés et qu'il est ressuscité. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La réponse que Dieu attend de notre part, elle est double. C'est à la fois non seulement la repentance, mais aussi la foi. Les deux sont indissociables. Et les deux sont indispensables pour être pardonnés, pour être sauvés. Et en même temps, rappelons-nous, la foi et la repentance sont l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Et l'Esprit, on en a une démonstration avec l'apôtre Pierre, l'Esprit, il agit où il veut, quand il veut. Et on en a reparlé mercredi dernier. C'est pas nous qui faisons nos plans, non. Il nous a demandé d'être fidèles, d'annoncer fidèlement le message de l'Évangile. C'est Dieu qui agit où il veut, quand il veut, aussi bien chez un juif qu'un païen. Juif, païen, c'est la croix de Christ qui a abattu le mur qui séparait les deux, le mur de séparation qui séparait les deux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mission Juif pour Jésus. Ils sont sur Paris. Et donc, leur mission, c'est d'annoncer l'Évangile à qui? À des Juifs. Ils sont eux-mêmes issus du judaïsme. Et je lisais dans un témoignage qu'ils ne parlent pas aux Juifs d'une rupture avec le judaïsme. Ce n'est pas leur message. Ce n'est pas ce qu'ils disent aux Juifs à qui ils parlent. Mais ils parlent plutôt d'un accomplissement, d'un retour à leurs racines. Ils parlent d'une continuité. Comme quoi, il est possible de croire en Jésus pour un Juif sans renoncer à son identité juive. Il ne s'agit pas de tout gommer. On vient tous de quelque part. Et cette mission, puisque ce sont des Juifs issus du judaïsme, qui se sont convertis, eh bien, ils sont à même de parler à des Juifs. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, en entendant le récit de Pierre, chez Corneille, eh bien, les croyants juifs qui ont entendu, ils ont loué Dieu, ils ont rendu gloire à Dieu, verset 18. Et il y a de quoi? Il y a de quoi rendre toute la gloire à Dieu, il y a de quoi louer Dieu, puisque le Saint-Esprit, il est non seulement à l'origine de la foi et de la repentance chez nous, mais il en est aussi la conséquence. Quelqu'un qui se repent et qui croit, Dieu lui donne le Saint-Esprit qui vient habiter dans son cœur. Alors, gloire à Dieu. C'est Dieu qui agit. Il est le commencement, il est la fin. Il le donne à quiconque se repent et qui croit. Voilà pourquoi le baptême doit être dispensé à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui se sont repentis et qui ont cru. Donc, ils sont nés de nouveau. Dieu dépasse notre logique. Il fait grâce. C'est dans sa nature. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un seul peuple. Ne jugeons pas sur les apparences, ni sur les préjugés, ni sur les ouï-dire. On m'a dit que, tu sais, on m'a dit que un tel. Non. Non. Le Saint-Esprit agit où il veut, quand il le veut. Et nous aussi, nous avons des raisons de nous réjouir de ce que le salut est parvenu jusqu'à nous. Si nous sommes là, c'est justement que Dieu continue le travail. Une fois que les barrières tombent, eh bien, l'Église est appelée à grandir en nombre. Comment? Eh bien, par l'évangélisation. C'est mon deuxième point, la croissance en nombre par l'évangélisation. Dans notre texte, il y a un retour en arrière à la période de la persécution avec la mort d'Étienne. Donc, ça s'est passé avant la conversion de Corneille. Et là, eh bien, on peut dire que les Juifs qui n'ont pas cru en Christ, en ayant tué Étienne, eh bien, ils vont se voir fermer la porte de la grâce, puisqu'ils l'ont refusé. La porte de la grâce va leur être fermée, à ce moment-là, pour que des non-Juifs, pour qu'elle s'ouvre pour des non-Juifs, des croyants juifs vont se disperser parmi les nations, ceux qui ont été persécutés par les juifs non-croyants, ils vont se disperser pour annoncer l'Évangile. Parmi les nations, et elles sont citées ici, en Phénicie, aujourd'hui la Phénicie c'est le Liban, à Chypre, une île de la Méditerranée, à Cyrène, aujourd'hui c'est la Libye. Que font-ils donc ces croyants qui ont été dispersés de par la persécution? Ils annoncent l'évangile. Puisque les juifs non-croyants les ont chassés, eh bien, la porte s'ouvre pour les non-juifs. Mais vous avez remarqué, verset 19, ils annoncent pour le moment, hein, ils annoncent seulement aux juifs la bonne nouvelle de Jésus. Beaucoup ne savent pas encore que l'évangile est pour tous, mais ça va changer. Il y avait déjà eu un précédent lorsque Jésus, des Grecs, vous vous souvenez, voulaient voir Jésus. Ils avaient été venus voir les apôtres, ils avaient dit « Nous voudrions voir Jésus ». C'est en Jean 12, verset 20. Donc déjà, il y avait des Grecs qui cherchaient Jésus, des non-juifs. Ici, les croyants qui ont été dispersés, donc des croyants d'origine juive, quelques croyants de Chypre et de Cyrène, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont oser prêcher l'évangile à qui? À des non-juifs, à des païens grecs dans la ville d'Antioche, verset 20. Et c'est pas par hasard, là encore, Dieu avait tout prévu. Antioche, c'était un centre commercial où se rencontraient les Européens et les Asiatiques. C'était aussi la troisième ville du monde après Rome et Alexandrie, donc une ville importante. Et là, à Antioche, on est loin de toute l'opposition qui a eu lieu à Jérusalem. Donc l'évangile va pouvoir se répandre. Résultat, c'est ce qui se passe. Beaucoup de conversions et de non-juifs, ce qui donne naissance à l'église d'Antioche. Je relis le verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Beaucoup de conversions à Antioche. La nouvelle, on n'avait pas Internet, mais la nouvelle, circulaient bien et vite. Le bruit de ce grand réveil parvint aux oreilles de qui? De leur église de Jérusalem. Et là, on assiste à la naissance d'une église qui n'est pas issue du judaïsme à Antioche. On n'est plus en Judée, là. Et cette église, c'était quand même une église qui était issue, qui n'est pas issue du judaïsme, elle avait aussi besoin de l'approbation de qui? Des apôtres. Est-ce que ça venait de Dieu? Elle avait besoin des apôtres qui, eux, étaient restés à Jérusalem. Et imaginez comme quoi Dieu avait tout prévu. Si les apôtres, les croyants en Judée, n'avaient pas entendu le récit de la conversion de Corneille et de sa famille, eh bien, ils auraient très probablement douté de la légitimité d'une telle église qui n'est pas issue du judaïsme. Mais Dieu avait fait en sorte que l'église de Jérusalem entende le récit de la conversion de Corneille et de sa famille. Dieu avait veillé à les préparer. Ils sont maintenant convaincus que l'évangile est aussi pour les non-juifs. Eh bien, qu'est-ce que fait l'église de Jérusalem? Vous vous rappelez? Ils avaient déjà envoyé Pierre et Jean en Samarie, en 8, verset 14. Eh bien là, l'église de Jérusalem va décider d'envoyer qui? D'envoyer Barnabas à Antioche. Barnabas, vous vous rappelez, son nom signifie fils d'exhortation. Hein, on le voit en acte 4, verset 36. Et il porte bien son nom. Puisque c'est lui qui avait amené Saul vers les apôtres pour leur dire qu'il s'était converti. En 9, verset 27. Donc c'était la bonne personne, Barnabas, envoyé de l'église de Jérusalem à Antioche. Barnabas arrive à Antioche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de ses yeux la grâce de Dieu dans cette église. Une église mixte, avec des croyants d'origine juive et d'autres d'origine non-juive. Il se réjouit en voyant la grâce de Dieu, plutôt que de s'offusquer de la présence d'anciens païens. Il se réjouit de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il les pousse, il les exhorte à rester résolument attachés au Seigneur, verset 23. La grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu dans l'Église. La grâce de Dieu doit se voir dans une Église. C'est elle qui nous réjouit. Dieu qui nous accueille, tel que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui œuvre dans son Église, encore une fois, par son Saint-Esprit. C'est Dieu qui en est à l'origine, c'est Dieu qui l'a fait naître, c'est Dieu qui l'a fait grandir, aussi bien en nombre qu'en maturité. Et il le fait par sa grâce. Et ça finit par se voir. Alors oui, Barnabas, il était la bonne personne pour aller encourager l'église d'Antioche. Et sa présence, de par son caractère, elle a contribué à la croissance en nombre de l'église. Regardez le verset 24, le petit mot « car ».« Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » La bonne personne. L'Église donc grandit. Elle grandit en nombre. Et quand l'Église grandit beaucoup, gloire à Dieu, eh bien parfois on se sent un peu limité et on a besoin d'aide. Voyons maintenant la croissance en maturité, mon troisième point, par une solidarité réciproque entre les croyants. Croissance en maturité par une solidarité réciproque entre les croyants. L'église d'Antioche continue de grandir. Barnabas, il a besoin d'aide. Et donc, il réfléchit, qui est-ce qui pourrait l'aider? Eh bien, il se rappelle d'une personne qu'il a amenée chez les apôtres, il s'agit bien sûr de Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Saul, qu'il avait commencé à prendre sous son aile. Et Saul, il avait besoin de quoi? Il avait besoin d'être encouragé. Et voilà le job idéal pour Saul. Barnabas va le prendre sous son aile pour l'emmener avec lui à Antioche, pour travailler avec lui, ce qui va renforcer la crédibilité de Saul. Que Dieu l'avait changé. Barnabas travaille avec lui à ses côtés. Saul était donc la personne, et Saul était la personne idéale. Aussi parce que, eh bien, il avait eu des démêlés, Saul. Il avait eu des démêlés avec des juifs hellénistes qui parlaient grec à Jérusalem, des hellénistes qui ont voulu le faire mourir. Alors, j'ai pas noté exactement le chapitre, mais dans le livre des Actes, on lit ceci. Il parlait aussi, et donc il s'agit de l'apôtre Paul, hein, Saul qui deviendra l'apôtre Paul, il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, donc les juifs qui parlent grec, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Non, c'était au chapitre 9, pardon. Oui, je crois que c'est le chapitre 9. Voilà comment il s'est retrouvé à Tarse, Saul. Donc, Saul, il a une mauvaise expérience avec les juifs qui parlent grec. Sauf que Dieu a décidé de l'utiliser, lui, pour aller parler à ceux qui se convertissent et qui parlent grec. Il va pouvoir témoigner à d'autres hellénistes loin de Jérusalem. Et nous aussi, ça nous encourage. Je ne sais pas si vous avez été parfois refroidi, vous avez essayé de témoigner à certaines personnes et vous vous êtes dit, plus jamais, étant donné comment vous avez été reçu, vous êtes dit, plus jamais, je parlais à telle ou telle personne. Ne disons pas plus jamais. Croyons que Dieu veut nous apprendre à surmonter cela pour nous faire grandir, à dépasser ces épreuves qu'il permet. Barnabas ira donc chercher Saul à Tarse, là où il se trouve, pour travailler avec lui à Antioche. Et les deux vont faire équipe. Et les deux vont être parfaitement complémentaires. Barnabas, le fils d'exhortation, son nom veut dire fils d'exhortation, et Saul, un ancien pharisien dur des durs, un ancien pharisien juif, qui va enseigner à qui? À des nouveaux convertis grecs, avec qui il avait une mauvaise expérience. On voit comment Dieu travaille. Nous, parfois, on a tendance à fuir les difficultés. Mais voilà ce qui se passe donc pour Saul. Donc, tous deux, Barnabas et Saul, vont enseigner l'église d'Antioche pendant une année. Comment est-ce qu'ils vont enseigner l'église d'Antioche? Pas par Zoom. Ils vont participer aux réunions de l'église, verset 26. Ce qui fait que l'église continuera ainsi de grandir. Elle va grandir non seulement en nombre, mais aussi spirituellement, de par leur enseignement. Et de même que Barnabas et Saul vont aussi apprendre de leur collaboration, l'un avec l'autre. De par leur assistance aux réunions de l'Église. Alors nous aussi, si nous voulons grandir, nous ne nous privons pas des réunions de l'Église. Et mercredi, on a vraiment eu des bonnes discussions aussi sur eux, sur le Saint-Esprit. Il y a une autre application pour nous. Parfois, on peut être dépassé par une tâche. On est dépassé parce que tout simplement l'Église grandit, ou pour autre chose, vous êtes seul à vous retrouver peut-être seul à faire le ménage. C'est toujours mieux de le faire à deux. Eh bien, il y a une application pour nous. Barnabas, il avait besoin d'aide. Il a réfléchi, qui est-ce qui pourrait faire le job? Qui est-ce qui pourrait l'aider? Est-ce que nous avons besoin d'aide dans un domaine particulier? Réfléchissons, prions. Qui pourrait remplir le job comme Barnabas a pensé à Saul? Parce que de servir, quand nous servons dans l'Église, nous avons l'occasion de quoi? De mettre en pratique les dons que nous avons reçus, qui sont différents les uns pour les autres. Tout un chacun dans l'Église devrait trouver sa place dans l'Église, la place où il va s'épanouir pour servir les frères et les sœurs. Et là, il se passe quelque chose. Il y a un verset qu'il faut vraiment, sur lequel il faut s'arrêter, c'est le verset 26. Qu'est-ce qui se passe pour ces nouveaux convertis à Antioche? Ses disciples se sont vus, c'est pas eux qui ont choisi leur nom, ils se sont vus attribuer le nom de chrétiens. Verset 26, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Littéralement, le mot chrétien, il veut dire, ils agirent, se comportèrent en qualité de disciples du Christ. Si on dit de vous, voilà un chrétien, voilà une chrétienne, c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Et en même temps, c'est une grande responsabilité. Parce que notre vie doit rappeler celle de Christ. En nous voyant, les gens doivent pouvoir se dire, lui ou elle, il est chrétien, elle est chrétienne. Oui, il croit en Jésus. La gloire, c'est à lui. Est-ce le cas? Est-ce qu'on dit de vous, celui-là, c'est un chrétien, elle, c'est une chrétienne? Si oui, c'est uniquement par grâce. On se rappelle, sur l'église d'Antioche, la grâce de Dieu reposait sur l'église d'Antioche, verset 23. Si les gens vous connaissent comme quelqu'un qui pardonne, qui dit la vérité, qui aime son prochain, même ses ennemis, quelqu'un qui fait le bien, qui veut résister à la tentation, alors oui, les gens voient que vous êtes chrétien, parce que vous avez cru en Christ qui nous a pardonnés, qui est la vérité, qui aime les gens, même ses ennemis, qui faisait le bien, qui a résisté à la tentation. Et qui était humble, si on voit de l'humilité en vous. Alors oui, ce nom de chrétien, eh bien, il a certainement été inventé par des païens, pas par des juifs. Parce que pour les juifs, Jésus était le Messie. Et on ne nous a pas appelés les gens du Messie, on nous a appelés les chrétiens. Donc certainement que ce nom a été inventé par des non-juifs. Voilà donc la première église de chrétiens à Antioche, née non pas d'une assemblée avec des traditions juives, mais constituée principalement de non-juifs, non-circoncis. Pourquoi ? Tout ça parce que des juifs chrétiens persécutés par des juifs non-chrétiens ont osé s'ouvrir à des païens pour leur annoncer l'évangile. Voilà la naissance de la première église. Mixte, avec des croyants d'origine juive et d'origine non-juive. Participez aux réunions de l'église, parce que là, vous pouvez y apprendre des nouvelles. C'est ce qui s'est passé à l'église d'Antioche. L'avantage de participer aux réunions de l'église, c'est qu'on y entend ce que Dieu a à nous dire pour notre bien. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque des prophètes qui sont arrivés de Jérusalem sont venus à l'église d'Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabus, il annonça qu'une grande famine allait survenir sur la terre entière. C'est lors d'une de ces réunions qu'ils ont entendu que la famine allait survenir. Une grande famine allait survenir sur la terre entière. La terre entière, ça évoque l'Empire romain, hein, sous l'empereur Claude. Et là, on voit quelque chose de magnifique. Cette église d'Antioche, elle a beaucoup reçu. Et il y a de l'amour fraternel chez ces chrétiens qui va se manifester concrètement par une solidarité, par une générosité, par une communion fraternelle envers l'église de Jérusalem, envers l'église en Judée. Ça se voit comment l'église d'Antioche va faire une collecte, chacun selon ses moyens, il est dit, donc de façon spontanée, d'un commun accord. Pourquoi ? Pour aider ses frères en Judée. Et vous avez remarqué, c'est beau, hein ? Ce sont les mêmes intermédiaires, Barnabas et Saul, qui leur ont tant apporté. Ce sont eux qui vont maintenant rapporter le fruit de cette collecte aux frères de Judée. Et relevons quand même, quand il y a des frères et sœurs en difficulté, relevons la solidarité envers les pauvres. On se rappelle encore que Dorcas et Corneille, ils faisaient des aumônes. Hein, ils étaient les plus pauvres, dont il a été question précédemment, ils faisaient aussi des aumônes. L'apôtre Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, il dira en Galates 2, verset 10, « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » L'église d'Antioche, donc, c'est une église naissante qui a grandi aussi bien en nombre qu'en maturité. Pourquoi elle a grandi ? Parce que l'église de Jérusalem, eh bien, elle a aidé l'église d'Antioche par les exhortations et les enseignements de Barnabas et Saul. Une église qui a reçu l'église d'Antioche, c'est une église qui a reçu et elle est devenue une église qui a donné. Et ça ne va pas à sens unique dans la vie d'une église. On reçoit, mais aussi on donne. Ça a été l'église de Jérusalem qui se trouvait en difficulté. Et c'est comme ça qu'on grandit. Cette fois, l'église d'Antioche a aidé financièrement l'église de Jérusalem, qui l'a aidé à grandir. Cette église qui l'a aidé à grandir. Et pour nous, petite église de Figeac, est-ce que nous savons comment elle est née, notre église ? Alors, Pascal, il pourrait vous le dire. Est-ce que nous savons à quelle date elle est née ? Parce que toutes les églises locales, elles ont un point de départ. Elles ont un point de départ. Une église locale, elle peut être née lors d'un réveil suite au témoignage d'une ou plusieurs personnes qui ont eu une vision, oui, une église ici. Elle peut naître tout naître comme ça. Une église locale, elle peut naître aussi d'un projet d'église qui vise la multiplication. C'est ce que l'église de Toulouse, le BTM, réfléchit. Ils réfléchissent à une implantation d'église, une grande église. Une église locale, elle peut être née aussi, mais ça se produit aussi suite à une division. Ça s'est aussi produit. Donc, ça a plusieurs causes. Rappelons-nous que Jésus a dit, en Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples. » Et vous avez remarqué, Jésus ne dit pas « Faites de toutes les nations des églises. » Non, « Faites des disciples. » Parce que celui qui fait l'église, c'est Jésus. Jésus, il a dit « Je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18. Ça veut dire que nous tous, nous sommes impliqués. Nous faisons partie du corps de Christ, de son église, nous qui l'avons accepté. Ça veut dire que nous sommes tous impliqués dans la mission. Nous sommes tous invités à annoncer la bonne nouvelle dans toutes les couches de notre société, ce que nous rapportent ces récits. Dans toutes les couches de notre société, là où Dieu nous a placés. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Là où vous travaillez, là où vous habitez. Nous sommes tous invités à annoncer la bonne nouvelle dans toutes les couches de notre société, même vers ceux vers qui on n'a pas trop envie d'aller. Ah, celui-là, celle-là. Non. Pour cela, eh bien sûr, il faut être chrétien. Être né de nouveau. Par la repentance et la foi en Christ. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit. Il faut être encore conduit par l'Esprit pour aller. Et pour viser la croissance. La croissance d'une église, pas seulement en nombre, mais aussi pour être plus à la ressemblance de Christ en maturité. Début mai, nous avons participé avec Pascal, donc Brigitte et moi, nous avons participé au congrès du réseau FEF. Alors, le réseau FEF, c'est la Fédération évangélique de France. C'est un réseau, c'est pas une union d'églises, un réseau où les églises sont invitées à se mettre en contact les unes les autres, pour ne plus voir des églises qui sont isolées, qui n'ont plus de leur vision, c'est que les églises ne restent pas seules. Et le thème du congrès, c'était vivre l'église une. Vivre l'église une. Pour rappeler que nos églises sont appelées à vivre l'unité dans la diversité. Nous sommes tous différents, on ne cherche pas à convertir les autres à notre dénomination. Mais nous voulons vivre l'église une, c'est celle du Seigneur, sans nous comparer aux autres. En respectant nos différences, aussi en mutualisant les ressources d'une église à une autre, en fonction des besoins. Et c'est ce que nous faisons avec l'église de Gramma. Et ô combien il y a des bénédictions à cela. Hier, on l'a encore vécu avec la fête de la musique. On se fortifie les uns les autres. Parce que nous ne voulons pas nous considérer comme les propriétaires de nos églises, mais nous en sommes les serviteurs. Les serviteurs pour le bien de tous. Nous ne sommes pas les propriétaires de l'église, c'est le Seigneur qui en est le propriétaire. Et je vais terminer avec ce passage qui nous rappelle que nous sommes dans l'économie du don. Économie du don. On n'est pas appelé à garder pour soi tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons tous reçu des dons différents. Dans quel but ? Pour que l'Église de Jésus-Christ grandisse, à la fois en nombre et en maturité. Et je termine avec ce passage, Éphésiens 4, 11 à 15, que je vais lire. Éphésiens 4, 11 à 15. C'est lui, donc Jésus, qui a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire vous, nous tous. Cela en vue de l'œuvre et du service et de l'édification du corps de Christ. Et regardez le verset 13, dans quel but ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Pas moins. La barre, elle est haute. Mais c'est Dieu qui l'amènera à son terme. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, encore merci, que toute la gloire te soit rendue, parce que Seigneur, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, c'est toi qui es à l'origine de notre salut, c'est toi qui le mènera à son terme, enfin voilà, lorsque nous te verrons face à face. Seigneur, je veux te remercier. Seigneur, si on se tourne vers toi, c'est uniquement parce que tu as su toucher nos cœurs, Seigneur, et non seulement tu as donné Jésus, mais tu as aussi donné ton Saint-Esprit à quiconque se repent et croit en lui, encore par ton Saint-Esprit. C'est toi qui as donné, tu as tout donné ce que tu avais pour que nous ne manquions de rien. Et nous avons toute grâce, nous avons reçu déjà toute grâce en Jésus-Christ. Aide-nous à en être conscients, Seigneur, en étant toujours plus proche de toi, de ce que tu fais, Seigneur. Et nous voulons encore être émerveillés, Seigneur, de ton action. Nous voulons voir ta grâce dans l'Église, Seigneur. Merci. Parce que, Seigneur, tu le fais, tu travailles dans nos cœurs. Et je te remercie. Que le monde le voit, Seigneur, que voilà, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes le peuple de Dieu, issu de toutes les nations, de ceux que tu as appelés. Merci, Père. Glorifie-toi. Ici à Figeac, à Gramma, partout où on se réclame de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.